Salut à toutes et à tous pour ce direct depuis le Goutaillou. On n'est pas en
nous
direct.
Nous sommes en différé. Oui.
Nous sommes tout à fait en différé. Internet n'est pas arrivé pour nous aujourd'hui, pour cette émission. Et ça ne m'étonne pas trop parce que quand je pense au Goutaillou, c'est plutôt ça qui me vient. Alors, à la technique, des voix s'élèvent contre cette image du Goutaillou, cette image médiévale et médiéviste. Et en même temps, je vous dis ça, nous sommes devant la grange du Goutaillou à l'architecture inspirée du Moyen-Âge, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, avec des rites qui ont été faits autour de cette grange. Bref, nous sommes en plateau aujourd'hui pour le festival de soutien à la maison au Volet Rouge.
Édition numéro 2.
Avec Marianne. Salut Marianne.
Salut.
Avec Manon.
Bonjour.
Et Cyril.
Bonjour.
Alors Manon, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce lieu qui accueille ce festival en soutien à la maison au Volet Rouge, le Goutaillou?
Alors le Goutaillou, oui, il a été acheté en 2005. Voilà, c'est un lieu où il y a plein d'activités. On parle juste de la grange ou de tout ce qui se passe autour?
Tu peux parler de tout ce que tu veux.
Un petit résumé de
résumé rapide
des activités de la ferme.
Alors dans la ferme, il y a un pôle bois avec une partie donc de découpe de bois toutes sortes, voilà. Il y a une menuiserie donc avec le travail du bois, il y a toute une partie maraîchage. Il y a une partie élevage sur les terrains et dans la grange, voilà, il y a des pour l'instant, elle est en construction, mais il y aura plus tard des rencontres, des concerts, des choses comme ça.
Comment elle s'est construite, cette grange ?
Alors, elle s'est construite en plusieurs étapes, mais la charpente a été conçue avec des personnes d'ici et des compagnons allemands qui sont venus en 2014 construire la charpente. Voilà, en chêne et qui ressemble un peu à un bateau renversé. Et puis après, il y a encore beaucoup de travail, mais ce sera un très bel espace. C'est déjà un très bel espace. Mais...
Et c'est un espace près duquel se déroulent déjà régulièrement de nombreuses rencontres, qui sont souvent des rencontres de réflexion et de présentation, comme l'été dernier, et là l'intitulé ne me vient plus correctement, je crois.
Il y a eu plusieurs événements.
Tout à fait. Autour de l'histoire.
Défaire le passé, non, c'est pas ça?
Tout à fait ça. Défaire le passé. On
Je
écoute
crois.
Tout de suite un petit reportage qui date de l'année dernière. C'est Chloé Maillet qui parle du genre au Moyen-Âge.
Je m'appelle Chloé Maillet. J'ai fait une thèse qui s'appelle La parenté hagiographique sur la question de parenté entre le XIIIe et le XVe siècle. Et ensuite, j'ai fait des recherches postdoctorales sur les questions de changement de genre au Moyen-Âge. Et je suis en train de finir un livre qui va s'appeler « Transgenre au Moyen-Âge ».
Hier, tu nous as fait une présentation. J'avais un peu le sentiment que l'envie, c'était de parler de l'époque médiévale pour voir aussi comment on peut s'en inspirer dans nos luttes actuelles.
J'ai essayé, en fait, de prendre comme point d'appui le passé pour construire ce qui peut se faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il fallait absolument laisser de côté puisque c'était vraiment pas intéressant. Sur les questions de genre qui résonnent avec des problèmes très actuels et avec des luttes très actuelles, c'est la question du droit des personnes intersexes. Donc il y en a beaucoup, hein, en fait ça touche entre 1,7 et 4% de la population qui naissent avec des choses qui troublent un petit peu la définition du masculin et du féminin, aussi bien au point de vue chromosomique, gonadique, de la constitution des organes génitaux, etc. Donc ça touche beaucoup de gens, et sans doute ça touchait déjà beaucoup de gens dans les périodes anciennes. Une des choses voilà, qui est peut-être intéressante, c'est que dans tous les textes de loi, les personnes sont définies comme étant soit des hommes, soit des femmes, soit des hermaphrodites. En fait, c'est la définition même des personnes qui est ternaire. Et donc, dans le cas des personnes intersexes qui se passent au Moyen-Âge, de manière assez générale apparemment, on donne un nom qui pourra facilement changer de genre. Souvent, les médecins conseillent de donner un nom masculin aux personnes, simplement parce que le statut social est plus élevé pour des hommes qu'il l'est pour des femmes. Donc, potentiellement, c'est plus intéressant. Mais les possibilités sont laissées de pouvoir changer de statut social dans la suite de la vie. À l'inverse, aujourd'hui, en fait, il y a une prise en charge de toutes les personnes dès la petite enfance, y compris chirurgicale et hormonale, sur des petits-enfants, donc dès la naissance, qui ne sont pas consentants. S'appuyer, par exemple, dans ce cas-là, sur le droit médiéval, paradoxalement, peut permettre de donner un appui pour défendre le droit à l'autodisposition de son corps des personnes aujourd'hui. Et à l'inverse, je veux dire un point négatif, c'est que ces possibilités quand même de tolérance vis-à-vis de variations de genre, elles sont corrélées avec un contrôle des comportements sexuels qui par contre, lui, est extrêmement rigoureux, qui compte donc ce que nous on appelle l'homosexualité, qui ne s'appelait pas l'homosexualité aujourd'hui, masculine comme féminine, mais aussi toutes les pratiques sexuelles qui sont dites voilà, non reproductrices. Et là, il y a une tentative, on ne sait pas à quel point elle était efficace, mais de contrôle de la part de l'Église comme des autorités judiciaires qui est très très forte et qui, je pense, est une des choses qu'il ne faut pas récupérer pour les luttes actuelles, bien entendu. Il y a une des choses effectivement que je voulais faire ici et que j'aimerais faire par la suite, c'est essayer de prendre la mesure d'un débat aussi théorique sur la place des femmes dans la société médiévale, pour tout un tas de critères dans la période médiévale classique, peut-être jusqu'au XIVe siècle à peu près, le statut, les droits, les possibilités de s'intégrer dans la société, d'être actif et libre dans la société, sont globalement plutôt meilleurs que ce qu'elles seront dans les siècles suivants. Donc ça, c'est une chose qui permet un petit peu de dessiner une histoire longue, qui n'est pas que une histoire de l'oppression des femmes. Par exemple, le droit à la terre, le droit d'autogérer son entreprise, son travail, son atelier, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et qu'on voit bien réparties dans les métiers. En revanche, cela est corrélé avec une image qui est celle de la globale infériorité de tout ce qui touche au féminin par rapport à tout ce qui touche au masculin. Par exemple, une personne qu'on va assigner femme, on va dire qu'elle est masculine, virile, et ça va être une qualité. Ça va être le fait de montrer que cette personne est une bonne personne. On va lui donner des qualificatifs ou la définir avec des qualificatifs masculins. Et en revanche, il y a plein de textes qui montrent qu'un homme qui va être qualifié de manière assez négative, on va lui attribuer des caractères de d'efféminisation. Donc il y a une corrélation tout à fait forte, je pense, entre un statut social des personnes qui est donc globalement pas tout à fait égalitaire, mais meilleur que ce qui sera dans les siècles suivants, et un système de pensée du genre qui est très clairement hiérarchisé.
C'était Chloé Maillet, enregistrée l'année dernière lors de Désarchiver le passé, une série de rencontres qui avait lieu au Goutaillou dans le cadre de l'École de la Terre. Mais ça, c'était l'année dernière.
Oui, cette année, c'est le festival de la maison au volet rouge. Donc peut-être on peut replacer un peu le contexte avec Manon. Qu'est-ce que c'est que cette maison au volet rouge? Quelle est son histoire et pourquoi on en est arrivé à un festival aujourd'hui?
Alors, l'histoire de la maison au volet rouge, c'est d'abord il y a la création du CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile à Perlevade, il y a 4 ans, je crois. Dès qu'il y a eu l'ouverture de ce CADA, il y a beaucoup d'habitants qui se sont mobilisés pour créer une association qui s'appelle Montagne Accueil Solidarité de Perlevade, MAS de Perlevade, et qui se sont occupés d'accueillir des bergers, de s'occuper des suivis médicaux, enfin scolaires, etc. etc. De toutes les personnes qui étaient déboutées du droit d'asile et donc qui étaient à la rue quoi, pour la plupart. Et donc au début, on hébergeait et on héberge encore chez les particuliers, tous les gens qui sont dans le réseau du MAS. Mais donc un jour, à Tarnac, il y a eu cette maison au volet rouge qui s'est vendue très très peu cher. On a fait un appel à dons et on s'est lancé. On a signé même avant d'avoir l'argent en se disant « Allez, il faut le faire ». C'était au moment de l'expulsion de Calais, donc où il y avait vraiment beaucoup de gens qui soutenaient l'accueil d'exilés. Et donc... il y a eu beaucoup d'argent récolté, assez pour acheter la maison et faire les travaux dans une partie des travaux de la maison. Et donc, on l'a acheté il y a 3 ans. Au début, on n'était que 3 à s'occuper de la maison et maintenant, on est entre 8 et 10. Et on accueille des gens depuis 3 ans, à peu près, 2 ans et demi. Parce que le temps de faire les travaux. Il y a 5 chambres, il y a 2 espaces de vie. Pour l'instant, c'est 5 célibataires, mais il y a des espaces qui pourraient accueillir des familles, peut-être dans le futur. Cette maison, comme tout ce qui se fait dans le MAS et tout l'argent qui arrive dans le MAS, on a décidé qu'on ne voulait pas de subventions ni publiques ni privées. Donc on ne fonctionne qu'avec des soirées de soutien. Et des appels à dons. Donc, le MAS tourne des fois avec 6 000 euros par an de dons. Enfin, il y a une grosse mobilisation localement et même ça résonne plus loin. Et la Maison Volée Rouge, donc on fait des événements réguliers pour financer ce qui est toutes les fluides de la maison, les factures et puis tout le suivi pour les personnes qui sont dans la maison. Donc il y a un peu d'argent de poche, il y a aussi des fois les papiers, il faut faire des traductions, il y a quand même pas mal de frais. Et le festival, c'est la 2e édition qu'on organise avec pas mal de gens qui viennent de Suisse. Côté allemand, et c'est la 2e édition, je sais pas quoi dire d'autre.
Sur cette maison au volet rouge, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce qu'il y a des personnes qui restent, est-ce qu'il y a un profil type en fait de gens qui s'installent, ou ça va être assez varié au final des résidents de la maison au volet rouge?
Dans l'équipe qui s'occupe de la maison au volet rouge, on est quelques-uns à faire, enfin on est presque tous, on fait partie du MAS et donc on va aux réunions mensuelles et c'est là où on sait chaque mois un peu tous les gens qui sont déboutés du CADA. Puisque le lien est permanent. Et donc, il y a des listes de gens, et des gens, selon les profils, parce que Tarnac, c'est isolé, parce que c'est une maison en colocation, donc ça dépend, ça ne convient pas à tout le monde. On nous fait des demandes, et donc, nous, on se voit dans l'équipe, et puis on voit aussi les habitants, et en fonction, on rencontre les gens, on voit si ça leur convient. Et... donc, il n'y a pas de profil type. Mais s'il ne reste plus qu'une place, on ne peut pas prendre une famille. S'il n'y a que des jeunes garçons, on ne va pas forcément prendre une fille toute seule. Enfin, ça dépend, mais bon, on fait en fonction aussi de la maison, parce que même s'il y a différents espaces, c'est quand même un peu une colocation. Et après, pour la durée, en fait, les hébergés signent un contrat de location, un contrat d'hébergement avec le MAS de 3 mois, mais qui est renouvelé, Donc, il n'y a pas de fin particulière, sauf s'il y a quelque chose de grave qui se passe avec la personne ou je ne sais pas. Mais sinon, il n'y a pas, mais un peu depuis 2 ans qu'on accueille... des fois, il y a des personnes qui ont leurs papiers, donc ils partent. Des fois, nous, quand on a pensé la maison, c'était une maison un peu de transition. C'est-à-dire que quand les personnes qui sont au CADA, on leur dit, vous avez 1 mois pour partir, puis vous êtes à la rue, en fait, c'est un énorme choc déjà de ne pas avoir les papiers, puis de se retrouver sans rien. Donc, c'est un moment où ils peuvent se poser et juste réfléchir, parce qu'il y en a qui n'ont pas de famille. Nulle part et ils peuvent pas retourner dans leur pays et ils veulent pas, même s'ils ont une obligation de quitter le territoire, et donc on réfléchit avec eux, ils se posent là et on pense avec eux ce qui est possible encore dans les papiers, si c'est pas possible ils attendent de voir ce qui... donc c'est plutôt une transition parce qu'ils vivent pas là toute leur vie en colocation avec des gens qui sont pas choisis et à Tarnac c'est aussi compliqué de trouver du travail, etc.
On a quand même des belles histoires de gens qui ont eu envie de rester aussi habiter Tarnac après leur passage à la maison Volée Rouge.
Oui.
Pour qui ça se pérennise, quoi. Et d'ailleurs, autour de la table, nous avons Cyril, qui vient aussi parce qu'il a réalisé un film autour du CADA et de la vie d'exilé sur le plateau. Et tu es aussi habitant de la maison Volée Rouge.
Oui, tout à fait.
Et ça va faire combien de temps maintenant, toi ?
Là, ça va faire... c'est depuis mars, le 21 mars, et donc là ça va faire 5 mois pratiquement, 5-6 mois,
Et la vie se passe bien à la maison au volet rouge?
En tout cas, ça va, je ne me plains pas. Depuis que je suis là, on me pose la même question et je réponds toujours de la même manière, ça va. Et je me suis très vite adapté. L'accueil ici a été quand même particulier. J'avais quand même... les gens venaient vers moi, je n'étais pas obligé de
d'aller vers eux.
Faire l'effort de les approcher. Et avec beaucoup de personnes, le contact s'est fait directement, quoi. C'était spontané et ça évolue bien en fait.
Et ce projet de film, du coup, que tu as réalisé... Ah, peut-être pas tout de suite le film, on va peut-être revenir sur le festival.
Nous pouvons prendre notre temps. Ouais. Oui, moi je me posais une question sur le lien que le MAS entretient avec le CADA. Manon, tu disais que... vous êtes assez au courant des personnes qui sont déboutées. Comment vous travaillez avec le CADA en fait?
Alors avec le CADA de Perlevade, ça a été très compliqué avec le MAS de Perlevade de travailler parce que les directions ont beaucoup changé, donc ça a changé dans le temps, mais ils n'étaient pas du tout ouverts au fait qu'il y ait des associations qui aident les déboutés, et voilà, donc ça a été plutôt assez conflictuel et on travaillait séparément. Mais il y a une autre association qui s'est montée en même temps que le MAS, qui est la CIMAD de Perlevade. Et en fait, on est quelques-uns de l'équipe de la Maison Rouge à faire partie aussi de la CIMAD, donc tout est lié. Et les habitants du CADA par les événements que fait le MAS et par... ils rencontrent toujours le MAS et la CIMAD aussi, parce qu'ils vont, ils attendent pas forcément d'être déboutés pour aller voir la CIMAD, donc ça se... Voilà. Et maintenant, en tout cas, nous, on n'est pas en lien avec le CADA directement parce que ça nous a un peu refroidi les premières rencontres. Mais par exemple, Cyril pourra en parler autrement puisque lui, il a pu faire le film dessus. Donc, on n'est pas tous dans le même. Mais les liens se font parce qu'il y a des choses, des événements qui. On va chercher les gens aussi pour nous aider dans les événements.
Oui, vous êtes plutôt au courant parce que les personnes déboutées viennent vers vous, des personnes de la CIMAD, plutôt que le CADA qui vous appelle, quoi.
Voilà, ou sinon des résidents du CADA qui étaient au CADA avant, qui sont déboutés, ont encore des liens dans le CADA, donc font venir leurs amis pour aider dans les événements, etc. etc. Voilà, ça se lie.
Un vaste réseau de rencontres, j'allais dire un peu souterrain, mais je ne sais pas si c'est le cas.
Pas vraiment souterrain, mais...
Non, vous êtes des champignons.
Et puis juste pour replacer pour les auditeurs qui ne voient pas, quand on dit déboutés, c'est-à-dire qu'ils se sont fait refuser leur demande d'asile une première fois ou une deuxième fois, mais voilà, juste
merci
pour
Marianne.
Situer.
Peut-être effectivement que nous pouvons en venir, Marianne, désolée je t'ai coupé tout à l'heure, à la programmation et à l'organisation du festival de soutien à la maison.
Alors il faudrait que j'aille chercher Kassem, qui quand même, parce qu'on a une grosse programmation hip-hop cette année, en plus du dance floor un peu plus techno house qui a lieu dans les bois, et qui est entièrement géré ça par l'équipe suisse-allemande de Jones. Et du coup, je vais peut-être aller chercher Kassem et vous pourrez rembrayer sur le film.
Et nous allons en profiter peut-être pour écouter Esther et Lilis.
Qui faisaient partie de la programmation.
C'était vendredi soir 14 août au Goutaillou et le morceau s'appelle C'est d'art.
On se colle, on se colle, vraiment. Fais pas semblant. Ok. Ouais, c'est mieux là déjà.
On porte la France à bout de bras, charbonne pour le bout de gras. Levé aux aurores, j'dors pas. En ce moment, je vois peu de drap. Le soir, je retrouve ses bras. Et je bosse pour que tu s'étardes. On bosse pour que tu s'étardes. Pour les marmots, c'est se battre. À son du bon, dit fat. J'suis d'arène et ça me flatte. J'rentre du taf, je flatte taf. Tire une taf, pas besoin de caf. J'aime les boules magiques, appelle-moi boule ma fils. J'rappe en art et j'trouve ça cool aussi. J'voulais pas d'artifice. J'hydrate au jack au risque. Médiaté, la religion, elle agonise. La religion, elle agonise. Ok, hey. On porte la France à bout de bras. Charbonne pour le bout de gras. Levé aux aurores, j'dors pas. En ce moment, j'vois peu le drap. Le soir, j'retrouve ses bras. Et j'bosse pour que tu sais d'art. On bosse pour que tu sais d'art. On porte la France à bout de bras. Charbonne pour le bout de gras. Levé aux aurores, j'dors pas. En ce moment, j'vois peu le drap. Le soir, j'retrouve ses bras. J'bosse pour que tu sais d'art.
Pas le temps de dormir parce que trop de choses dans ma to-do list. À mon échelle, je veux troubler leur sommeil comme un moustique. Je réfléchirai après, je fais les bails tout de suite. J'ai le calme d'une tempête et la rage d'un bouddhiste. Un bowling avec des têtes de ministres. mon sport favori. Des années qu'on charbonne en silence, on n'en sort pas nos vies. Ça mochit par l'alcool, embelli par l'iPhone. T'agonises, on cartonne quand les paroles suivent la prod.
On porte la France à bout de bras, charbonne pour bout de gras. Levé aux aurores, j'dors pas, j'dors pas. En ce moment, j'vois peu de draps. Le soir, j'retrouve ses bras. J'bosse pour que tu s'aides. On bosse pour que tu s'aides. On porte la France à bout de bras, charbonne pour bout de gras. Levé aux aurores, j'dors pas, j'dors pas. En ce moment, j'vois peu de draps. Le soir, j'retrouve ses bras. J'bosse pour que tu s'aides. J'bosse pour que tu s'aides.
Fallait pas m'énerver, j'ai perdu mon calme. Touche la déguisée, a vite fait déborder le vase. J'avoue que j'en ai bavé. Ils me prennent pour une dépravée. Voudrais m'emmener à l'hôpital. Ils mettent de côté leur épargne. Mais c'est moi qu'il faut épargner. J'ai pas toujours tout fait tendrement. Souvent je me sens étouffé par les gens. C'est gênant. J'ai comme un mauvais goût de sang coincé dans la gorge. L'ironie est sous-jacente. Satan s'est glissé dans mon corps. Ouais.
On porte la France à bout de bras, charbonne pour bout de gras. Levé aux aurores, j'dors pas, j'dors pas. En ce moment, j'vois peu le drap. Le soir, j'retrouve ses bras. J'bosse pour que tu sais d'art. On porte la France à bout de bras, charbonne pour bout de gras. Levé aux aurores, j'dors pas, j'dors pas. En ce moment, j'vois peu le drap. Le soir, j'retrouve ses bras. J'bosse pour que tu sais d'art. On passe pour que tu sais d'art. C'est d'art,
c'est d'art.
À vous,
c'est d'art.
C'est tard,
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 c'est tard, c'est tard,
c'est tard,
c'est
tard, c'est tard, c'est tard, c'est tard, c'est tard, c'est tard, c'est tard, c'est tard, c'est tard, c'est tard, c'est tard, c'est tard, c'est Le jour, il est d'art ou il est pas d'art ce soir?
Et faites du bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Amnès et Lilis.
Elles viennent de le dire, du coup, c'était Esther et Lilis, deux rappeuses parisiennes qui étaient là hier. Et du coup, nous avons deux nouveaux invités autour de la table, donc Kassem et Laura, qui font partie de la partie d'Orga qui a fait venir beaucoup de rappeurs. D'ailleurs, vous pourrez nous donner peut-être... la provenance de certains d'entre eux, d'où ils viennent et tout ça, et nous expliquer peut-être comment vous êtes arrivés à nous faire cette programmation de rap hip-hop qui est pas courante quand même par chez nous, des concerts de rap à la campagne, on n'en voit pas beaucoup. Donc savoir comment tout ça, ça s'est monté, comment vous avez eu cette envie-là de créer une scène hip-hop sur les festivals.
Ok, bah nous c'est j'étais là l'année dernière pour le festival et là cette année on parlait avec les autres ici qu'ils organisent déjà le festival et on s'est dit, moi j'ai eu cette idée de faire des concerts du rap parce que quand même on sait tous que le rap c'est le, on voulait faire du rap international, c'est-à-dire que où il y a tout en fait, des gens de tout genre. Là on a invité un Palestinien, un Syrien, et Laura a trouvé des filles de Paris. Et
aussi rappeur soudanais.
Et il y a Edison aussi, donc Amir, donc son nom c'est Edison, il est moitié soudanais, moitié français aussi, il y a lui.
Du coup c'est ça en fait l'idée, parce que pour moi le rap c'est... Parce qu'en fait, même si c'est pas la même langue, là il y en a qui vont rapper par exemple en arabe, Mehdi, il vient de Maroc. Il habite à Marseille, il vient, mais il est marocain, il rappe en arabe. Et les autres, ils rappent en français. Il y en a qui rappent peut-être...
Puis c'est une culture populaire. Le rap, c'est une musique très répandue dans les quartiers populaires, que ce soit à Paris, parce que moi, je viens de Paris, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui rassemble les gens, que ce soit le freestyle ou même en concert. Donc on voulait aussi un peu propager la culture rap, qui est parfois... qui est pas vraiment sur le plateau parfois et tout, on se disait que c'était une belle occasion, surtout que les valeurs défendues par que ce soit Esther, Lilis ou Edison ou Mehdi qui a fait aussi d'ailleurs deux documentaires sur la présence policière pendant le 14 juillet par exemple à Marseille et tout, on se disait que c'était hyper intéressant de rassembler plusieurs origines qui se concentrent autour de mêmes thèmes en fait.
Ouais, qu'ils ont souvent les mêmes messages en fait à envoyer, à dire. Et voilà, c'est le rap, si on peut appeler ça le rap international révolutionnaire. C'était ça le thème dans ma tête, moi, perso, c'est parce qu'ils viennent tous des quartiers un peu les quartiers, genre il y en a qui viennent des cités à Paris, il y en a qui viennent de, bah, Mehdi il habite dans un squat à Marseille, et le palestinien, bah, c'est un palestinien, du coup, et ils ont, ouais.
Je suppose que du coup, ils ont, je m'entends pas, mais c'est pas grave, c'est aussi pour certains des personnes qui ont connu la vie d'exil.
Ouais, bah ouais, là, Abu Ghabi, il fait pas du rap, mais il va travailler avec Osloop qui fait du rap. Et bah, Abu Ghabi, il est syrien, il est comme moi, c'est un réfugié, il est là depuis pas trop longtemps, il parle pas trop bien français, mais c'est... Et surtout qu'en fait, le truc qui était trop intéressant pour nous, c'est le moment où on invite, parce que quand même, ces gens, c'est la première fois qu'ils viennent en fait sur le plateau à Tarnac. Et du coup, quand j'ai contacté les gens, ils me disent, ouais, je dis, il y a un festival, machin, ils disent, ok, mais c'est pourquoi le festival? Bah, on dit, en fait, c'est pour soutenir, machin. Déjà, le festival Maison Volée Rouge, du coup, c'est le premier truc, c'est pour soutenir les exilés, en fait, pour soutenir la maison qui accueille les réfugiés, c'est la Maison Volée Rouge. Du coup, dès qu'en fait, on dit ça, c'est vraiment un truc de solidarité, un truc de soutien, bah, les gens, ils étaient vraiment genre, trop intéressés, en fait. Ils n'ont même pas posé la question. Il y en a qui ont fait un long voyage quand même, il y en a qui sont venus de Rouen, de Paris, de Marseille, il y en a qui ont fait, genre hier, au Max, Maxence, il est venu avec son pote, ils ont fait le concert, une demi-heure après, ils sont repartis à Paris, ils ont fait aller-retour juste pour, ils étaient trop contents. Mmh. Et pour
c'est un rappeur québécois, non, il me semble, non, c'était pas ça
au Max, de Paris, au Max.
De Paris, ouais. Ouais. Yes. Ouais. Du coup, ça, c'était vraiment un truc qui, moi, ça m'a trop touché, que les gens, ils étaient vraiment trop intéressés. Les moments où on a expliqué c'est quoi le projet de Maison Volée Rouge et pourquoi on est là, machin. Voilà.
Et la volonté initiale aussi, c'était d'inviter des rappeuses chiliennes, un rappeur libanais,
oui.
Tefal, et un rappeur soudanais,
ouais.
dont je ne me rappelle plus le nom.
Ayman Mao, bah ouais. Oui, avec Ayman Mao et Tofar, et c'était ça en fait.
Avant qu'il y ait le Covid et ouais. Tout, on voulait vraiment mélanger et faire en sorte que chaque personne puisse parler aussi de ses luttes dans leur pays, que ce soit le Chili, le Liban ou le Soudan. Et donc après le Covid, on a rebondi sur autre chose, enfin il y a toujours les mêmes valeurs en fait qui sont véhiculées, ouais. Et donc le même soutien effectivement à la maison au Volet Rouge pour les exilés et tout.
Et il y a quand même du très beau monde sur scène au final.
Ouais.
Et ça fait vraiment, vraiment plaisir sur le plateau de pouvoir s'offrir une scène hip-hop comme ça. Et c'est pas des têtes d'affiche, mais justement, je trouve que c'est ce qu'il y a de chouette aussi là-dedans, c'est qu'on va découvrir des artistes. Et d'ailleurs, si vous voulez les découvrir, vous qui écoutez Radio Vassivière, vous pourrez retrouver leurs liens sur le site du Festival de la Maison en Volée Rouge. Donc pour aller réécouter toutes ces personnes qui ont bien voulu venir participer à ce festival. Merci beaucoup.
Merci.
Kassem et Laura, je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot. Il y aura un open mic en fin de journée aujourd'hui, non? C'est demain ou aujourd'hui? Il y avait un open mic de prévu.
Normalement, c'est ce soir. On va voir si on aura le temps de le faire ou pas. Mais ouais, normalement,
c'était
il y aura
prévu.
Un open mic.
Ouais.
Ouais. Ok.
On va le maintenir.
Peut-être un moment de réunion de tous ces rappeurs qui peut être très beau. On vous en reparlera. On va revenir sur écouter un petit son, je pense d'abord, d'un autre rappeur qui est présent ce week-end, et c'est Figdissam.
Ziehst mich so fest an, dass ich mich nackt fühl. Meine Fassade am zerschreddern wie Aktenmüll. Ob zum Rhythmus von der Musik oder im Umgang mit den Worten. Manchmal hätte ich gerne ein Bier, ein bisschen mit Taktgefühl. Komme sicher zu spät, bei jeder frühen Schicht. Müsst längstens gehen, doch isse noch mein Müsli. Wegen der Wegwerfgesellschaft bin ich messi aus Protest. Wettbewerb im Tief schlafen, findest du stressig im Bett. Ohne Messband oder Messer liegen safe. Mitten auf der Straße, hast schon drei Stangen intus. Lied wie ein Liter Mann. Ich meine, ich nicht für Money Musik machen. Unabhängig, weisst du, reich Tag ein, Tag aus, tausend Sachen.
Das dickste Buch hat meine Zeit verschluckt.
Zeit verschluckt.
Ich versuchte hat meine Zeit verschluckt.
Zeit verschluckt.
A nach B hat meine Zeit verschluckt.
Zeit verschluckt.
Und wieder zurück hat meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt.
Ungereimtheiten.
Hat meine Zeit verschluckt.
Meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt.
Zeit verschluckt.
Bleib offensiv, ganz
so ohne Kampfsport und Wettkampf. Darum bin ich gefragt, wie das Passwort zum WLAN. Instagram beeinflussbare Influencer. Sam, dein vorgesetzter Hinterbänkler und bald der Lieblingsrapper von deiner Lieblingsrapperin. Schweben Licht wie ein Hummelstich ins Auge, Schmetterling. Zwischen Pfeister und Screen tönt sich die Welten auf. Der einfachste Betrug bleibt der Selbstbetrug. Als manchmal nicht im Fass abgefüllt wie Whiskyflaschen. Hängt Werbung für Streetart auf illegale Graffiti-Flächen. Wer im Schlachthaus sitzt, muss auch Gebein schmeißen. Und wer im Nachtzug schlaft, braucht einen Nachtzuschlag.
Das dickste Buch hat meine Zeit verschluckt.
Zeit verschluckt.
Eifersucht hat meine Zeit verschluckt.
Zeit verschluckt.
Von A nach B hat meine Zeit verschluckt.
Zeit verschluckt.
Wieder zurück hat meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt.
Ungereimtheiten.
Hat meine Zeit verschluckt.
Meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt.
Resümiere meine erste Show in meinem Club. Denkerpose über dem geschlechtsneutralen Frauenklo. Nie in Rucklag an den Ort, wo ich feiere und putze. Auf der Bühne mit Mob und Kübel. Oder dann genau so häng's auf der Schattenseite von der Sonnenstrahlen. Und warte weiter auf die schönsten Sommertage. Findet euch sicher, wenn du mal irgendwo dort bist. Im Zimmer mit Hinterhof und Meersicht. Rap 3 Minuten, du kannst Stunden drüber nachdenken. Ich glaub, die dritte Strophe wird jetzt grad den Rahmen sprengen. Eine gleiche Augenhöhe zeugt davon, dass mit mir drinnen bist. Mag immer noch kein Billett lösen, steht mach einfach Tunnel blick.
Das dickste Buch hat meine Zeit verschluckt. Ich versucht hat meine Zeit verschluckt. Von A nach B und wieder zurück.
Hat meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt.
Ungereimtheit.
Hat meine Zeit verschluckt.
Meine Zeit verschluckt.
Hat meine Zeit verschluckt. Fick die Samen, ist meine Zeit verschluckt.
Salut, c'est Inès de Tarnac. J'écoute Radio Vassivière sur 88.6.
Merci Inès. Avant Inès, c'était Fick Dissam, un rappeur suisse programmé par la team suisse de la programmation.
Exactement. Qui, on le rappelle, on aurait bien aimé avoir un des membres de l'orga suisse-allemande autour de notre table.
Un des 80.
Mais ils sont très timides, ils ont peur des micros. Du coup, on va surtout leur faire un gros big up. Parce qu'ils ils participent énormément à l'orga de ce festival. Il n'aurait pas lieu sans eux, en fait, je pense. Et ils arrivent une semaine avant à 40 et ils nous aident à tout mettre en place dans les scènes extérieures, parce que nous restons en extérieur pendant ce festival. Et du coup, ben voilà, peut-être on arrivera à en attraper un au passage, je ne cesse d'essayer depuis tout à l'heure, mais peut-être la barrière de la langue les effraie, la peur de fourcher la langue française peut-être. Mais voilà, c'était juste une petite aparté pour leur dire un grand merci à cette bande de jeunes ultra motivés qui permet à cet événement de vivre.
Et pour finir sur cette programmation, on va aborder toute la partie de spectacle et de projection avec Manon. Tu as pris tout ça à bras-le-corps, je crois.
Alors l'idée, oui, du festival, c'était aussi de faire en sorte que ce soit ouvert un peu à tous. Du coup, de varier la programmation un peu pour tous les publics et aussi que les personnes du village, donc il y a pas mal de gens du village qui soutiennent la maison de différentes façons, en faisant des cours de français, financièrement ou... Voilà, en faisant des choses avec les personnes qui sont hébergées. Et du coup, on a fait une programmation dans le bourg aussi, et enfin voilà, avec un cirque qui a mis son chapiteau derrière l'église de Tarnac. Et aussi des projections, donc la projection du film de Marjane et Cyril dont on va parler plus tard, avec aussi une exposition de Cyril dont tu peux parler aussi, qui est ouverte tous les jours du festival depuis donc hier, toute la journée, 10h-18h, demain aussi, avec un vernissage donc le dimanche. Le festival finit par ce vernissage de son exposition. Et sur le site de du Goutaillou, du coup, c'était aussi l'idée de faire pas que des concerts, mais que les gens puissent aller avoir des moments un peu plus sans forcément de bruit fort et tout ça. Et du coup, il y a une tente qui a été amenée par Bette Rousse, qui c'est aussi la programmation suisse, mais qu'ils ont bien voulu qu'on passe aussi d'autres films que leur programmation. Et donc, il y a un film qui est sur la Syrie, qui est passé deux fois hier. Et, et aujourd'hui qui s'appelle Still Recording. C'est voilà, deux Syriens qui ont filmé de 2011 à 2015 pendant la révolution syrienne, vraiment dans l'armée libre syrienne. 450 heures de rush et puis ils en ont fait 2 heures de film. C'est très prenant, il y a des personnes qui n'ont pas supporté, qui ont dû partir de la projection parce qu'on est vraiment dans les combats. Mais ça retrace, d'après les amis syriens, très bien ce qui s'est passé là-bas. Voilà, et on a passé aussi hier 2 courts-métrages du rappeur qui va, un des rappeurs qui va rapper ce soir. Elle m'a dit, un rappeur marseillais, qui a fait 2 courts-métrages, un sur une expulsion d'un squat de migrants à Paris 8 et puis un sur un 14 juillet à Marseille. Ensuite, d'autres choses, il y a donc une compagnie de Limoges, Construire un feu, qui vient montrer son, qui va jouer tout à l'heure à 18h. Donc ils ont fait plein de recueils de témoignages à la cité de Beaubreuil à Limoges, donc beaucoup de personnes issues de l'immigration, et ils en ont fait un spectacle où ils racontent tous les récits de ces personnes, donc des exils de différents pays, Algérie, enfin voilà.
Et tu sais combien de temps leur a pris ce projet de...
Non, mais ils sont juste là. On peut les faire venir pour... dedans, ouais, il y en a peut-être un qui veut y raconter. Et donc moi j'ai vu ça dans un lieu à Tulle et je trouvais que ça parlait vraiment pas mal avec ce festival et la question de l'exil. Ben voilà, et puis il y a aussi Marjane, elle va jouer 2-3 morceaux avant le film, voilà, elle va jouer 2-3 morceaux iraniens. Donc ça c'est un peu toute la programmation, je pense que j'ai tout dit.
OK. Voilà. C'est super. C'est fantastique et ça va nous permettre tout de suite d'écouter justement un morceau de Marjane qui a été enregistré à Radio Vassivière, peut-être en février dernier. Vassivière pendant le festival de soutien à la maison au volet rouge du Goutaillou. Et nous sommes en plateau avec Cyril Mukendi et Marjane Jafari pour parler de leur film Nos vies d'exil à Perlevad qui est diffusé en avant-première à l'occasion de ce festival. Eh bien, rebonjour, bonjour à nouveau à tous deux.
Bonjour Lorraine.
Et bon, je n'ai pas vu le film, j'ai vraiment très très hâte de le voir. Comment est née l'envie de faire ce film à deux au CADA de Perlevad?
Bon, en fait, on est parti d'un atelier
qui se tenait à Télé Mille Vaches, un atelier de pratique en fait de manipulation du matériel audiovisuel. Et au bout d'un moment, Franck de Télé Mille Vaches, Franck Galbrun, a proposé comme ça de retourner un peu le sens de la caméra, parce que on a l'habitude de voir des documentaires, des films faits par des grands médias en portant le regard sur les exilés ou les demandeurs d'asile. Et lui, il a proposé en fait de retourner la caméra et d'essayer de voir si c'était possible de donner un peu la parole aux exilés et de voir comment, quelle est leur vision en fait, qu'est-ce qu'ils voient en fait de la France. Et moi, ça m'a accroché tout de suite et j'en ai parlé à Marjane parce qu'à l'époque, on était tous au CADA. Et elle aussi, ça l'a plu tout de suite. Et on a organisé un peu, on a créé une petite équipe, quoi. C'est-à-dire, nous, on était du côté réalisation et Télé Mille Vaches était du côté production. Et on a mis en place le projet, quoi. Et c'est de là que c'est né. Et on a mûri au fur et à mesure. En parlant avec les différents résidents du CADA de Perlevade, ceux qui étaient intéressés et ceux qui étaient plutôt réticents. Et de fil en aiguille, une histoire s'est construite. Et voilà, on a...
Une histoire ou une forme d'écriture ? C'est un film documentaire quand même ? Ou oui. C'est une fiction ? Oui, c'est un documentaire.
Oui, oui.
Donc vous avez un peu co-écrit ou écrit en relation avec Télé Mille Vaches.
En fait, il n'y avait pas d'écriture.
Et les résidents.
C'était, en fait, on voulait prendre la réalité, mais on a essayé de l'agencer, de la mettre en forme pour qu'il y ait un certain sens et une conclusion.
Vous avez donc réalisé un film.
Oui.
et félicitations. Merci. Comment la direction du CADA a accueilli ce projet de film ?
Bon, au final, tout s'est bien passé, mais c'était tendu au début parce que on n'avait pas toutes les conditions n'étaient pas réunies pour suivre toutes les procédures, obtenir les autorisations de tournage et tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas de directrice. Il y avait une petite transition où il y avait un creux, il y avait un remplaçant, mais qui venait qu'une fois par semaine. Et c'est pendant ce temps-là que nous, on avait le matériel et qu'on devait faire quelque chose. Donc, on s'est lancé. Bon, bien sûr, on avait déjà lancé des courriers, mais on n'avait pas de retour positif parce qu'il n'y avait pas de direction en place. Et nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et c'est plus tard qu'on s'est remis ensemble avec la nouvelle directrice qui est arrivée. Elle a vu le film, elle a beaucoup apprécié et elle a fait ce qu'il fallait faire pour obtenir les autorisations après, quoi.
Voilà. Des autorisations de qui, en fait ?
De Forum Réfugiés, parce que le CADA, c'est une organisation, bon, une structure qui est gérée par une association, Forum Réfugiés. D'accord. Et voilà, donc il y a une hiérarchie dans...
C'est pas un milieu très souple, le CADA, j'imagine que...
C'est très administratif, mais ils sont conditionnés aussi parce qu'ils travaillent avec l'État français, quoi.
Pour en revenir au film, comment vous vous êtes répartis le travail tous les deux ? Alors, Marjane parle farsi, donc et anglais, donc je vais parler en anglais. How did you work together on the movie ?
Okay, I prefer talk Persia. My daughter translate because
yes.
To introduce my language too.
Yes. Nous avons Bahram qui est là pour la traduction. Merci Bahram.
Okay. سریل فیلم برداریش رو انجام داد یعنی از تمام لحظاتی که توی کدا اتفاق می افتاد بین مردم بین خانواده ها
سریل ایلا فیلمه سر طول مومان کی پس انتر لی فامی او کدا
تمام لحظاتی که با هم دیگه در ارتباط بودن توی شادی هاشون توی مشکلاتشون
طول مومان کی زیت اورو کی زیت qu'ils étaient tristes, toutes les relations qui passent au CADA.
زمانی که من میخواستم مونتاژ رو شروع بکنم یک عالمه راش داشتم.
Le moment que je veux commencer à faire le montage, j'avais plusieurs images.
اولش نمیدونستم واقعا به چه صورت باید اینا رو کنار همدیگه قرار بدم تا اون چیزی که مد نظرمون هست رو پیاممون رو به مخاطب بدیم.
Au début, j'avais aucune idée pour faire comment cette film pour montager comment on peut envoyer notre message à les gens qui voir ce film.
اما بعدش که به صورت تک تک افراد داخل فیلم نگاه می‌کردم.
Mais après quand je vois les visages qui sont dans le vidéo les visages de les gens qui sont au CADA.
بعد متوجه شدم که هر انسانی هر آدمی یک داستان طولانی در زندگیش دنبال خودش داره و تمام کسایی که اینجا اومدن و داخل کدا هستن با یک داستان خیلی بلندی به اینجا رسیدن.
Et je comprends que chaque personne a une grande histoire dans sa vie et je vois dans leur visage que chacun de personnes qui sont au CADA, ils ont une grande histoire pour arriver dans la France, pour arriver au CADA.
و تمام اون چیزی رو که تمام اون چیزی که باعث شد من این اسم رو روی این ژانر رو روی این فیلم بذارم اون خوشحالی و شادمانی و خوشبختی بودش که تمام مردم توی این دنیا به دنبالش هستن.
Ce que on fait ce film, c'était à cause que tout le monde dans tous les pays cherche cette réalité, cette vérité de être heureux, de trouver une solution pour être heureux.
و در نهایت اینکه فرقی نمیکنه که تو کجا داری زندگی میکنی و ما با این فیلم میخوایم نشون بدیم که شما میتونی در یک جای خیلی دور به دور از خانواده به دور از وطنت زندگی بکنی اما بتونی شادی های خیلی کوچیکی رو توی زندگی پیدا بکنی و خوشحال باشی.
Et c'est pas important que vous vivrez dans quel pays ou quelle ville. C'est important que vous trouviez une solution pour être heureux, même que vous n'êtes pas dans votre pays, vous n'avez pas votre famille, vous n'avez pas vos amis. C'est pas important que vous vivrez ou quel pays ou quelle ville. L'important, c'est trouver une solution pour être heureux.
بعد با سیریل صحبت کردیم و با هم به این نتیجه رسیدیم که همین مسیر رو ادامه بدیم.
Et on a parlé avec Cyril et on est arrivé de continuer cette film.
Tu parlais des parcours d'exil, tout ce qu'il a fallu traverser potentiellement pour avant d'arriver au CADA, par rapport à cette recherche du bonheur, est-ce que ça freine pas quelque chose? Est-ce que ça rend pas parfois les initiatives plus difficiles? C'est comment vous avez réussi à trouver quand vous êtes arrivé au CADA l'énergie pour proposer des ateliers de chant, proposer des expositions, aller à un atelier de télé mille vaches? Est-ce que c'est en lien avec cette question du bonheur aussi?
Oui, en fait, la question du bonheur telle qu'elle a été évoquée par Marjane, je pense que c'est une démarche personnelle et chacun peut avoir ses motivations, on peut se nourrir des motivations d'autres personnes, mais c'est vraiment une démarche personnelle et il s'est fait que moi et Marjane, au moment où on a eu cette opportunité, nous étions très engagés, très motivés dans le tout ce qui se passe dans la région, notamment des ateliers, on a mis en place des activités et tout ça. Et c'est à travers en fait cette expression de recherche du bien-être que on est arrivé finalement à nous projeter un peu dans le film qu'on a co-réalisé.
C'est pas évident, j'ai eu l'impression personnellement que c'était pas toujours facile de sortir du CADA et d'aller justement vers tout ce qui peut se passer localement et les associations. Comment vous avez pu réussir cette démarche, vous ?
Bon, c'est comme je disais, c'est de la motivation et on arrive à trouver des solutions, notamment de déplacement, des connexions aussi, savoir parler à telle et à telle personne. Et c'est en tout cas au CADA, les résidents qui sont déjà qui ont des problèmes de langue, ils sont très fermés. Et en règle générale, il n'y a pas de moyens de transport en commun. Et en tout cas, ils sont très refermés sur eux-mêmes. Mais bon, nous avons essayé de franchir des étapes et trouver des solutions aux problèmes qui nous étaient posé et voilà donc.
Est-ce que vous êtes des artistes peut-être un peu?
Bon, moi de base je suis ingénieur donc j'ai toujours tendance à trouver des solutions.
Et la peinture c'est venu quand?
La peinture c'est venu spontanément aussi, notamment justement en côtoyant des personnes et je côtoyais une dame qui tenait un atelier à Perlevade de dessin. Et on lui a parlé de moi, parce que moi j'ai parlé à quelqu'un d'autre à qui j'ai parlé un peu de mes projets de peindre ou de m'exercer un peu à la peinture, parce que petit j'avais un petit don de dessin et je voulais un peu occuper mon temps comme ça à peindre et tout ça. Et cette dame a parlé à Sophie Petitpré, de qui je viens de parler maintenant, et elle est venue me voir, elle m'a proposé un espace. Et tout de suite, j'ai occupé l'espace et j'ai commencé à peindre.
Est-ce que la réalisation du film au CADA a permis à vous de peut-être changer votre ressenti sur le fait d'y vivre ? Ou est-ce que vous avez vu des changements un peu aussi chez les autres résidents ? Qu'est-ce que ça a créé de réaliser ce film là-bas.
Bon, la réalisation en soi n'a pas changé grand-chose parce que c'est des moments qu'on a capturés, c'est des moments réels quoi. Il n'y avait pas de mise en scène au sens propre. Donc et puis le film il n'est pas encore sorti, donc c'est aujourd'hui la première. On verra peut-être quand ils auront vu aussi vraiment de façon officielle qu'est-ce qu'ils en penseront. Mais nous, personnellement, ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses dans l'humain en général. Parce que les conditions dans lesquelles les résidents du CADA vivent sont assez difficiles et éprouvantes, tenant compte de leur passé, de leur vécu, de tout ce qu'ils ont dû surmonter pour arriver déjà en France et puis à Perlevade. Et puis... le village lui-même en soi est déjà assez isolé. Donc tout ça, ça nous a permis de découvrir comment l'humain, ces humains-là qui se retrouvent à Perlevade, se débrouillent en fait pour accepter leurs conditions, mais essayer de faire un effort pour trouver une sorte de bonheur, quoi. En quelque sorte, je peux dire ça.
Oh là là, le bonheur.
Oui, c'est une question principale pour nous et c'est le sujet même de ce film.
Est-ce que c'est... On a souvent l'image de l'exil ou de l'immigration comme la recherche d'un...
Oui. Bon, là, si on veut aborder les choses comme ça, on risque de faire fausse route.
Est-ce que est-ce que c'est lié ou pas ou...
C'est lié tout à fait, mais pas dans le sens matériel ou quoi que ce soit. C'est les gens qui partent de chez eux, c'est des gens qui sont déjà à la base forcés de partir. Et parce qu'ils sont forcés de partir, ils sont obligés de trouver un autre endroit où ils peuvent se reconstruire. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et ça se fait qu'ils arrivent en Europe ou aux États-Unis ou peu importe. Et quand ils arrivent, ils font avec ce qu'ils ont, ce qu'ils trouvent. Donc, ce n'est pas comme s'ils se font un rêve au départ. Bon, c'est vrai qu'il y a des pays qui se sont construits sur ça, le rêve américain, tout ça. Mais du point de vue des personnes qui quittent leur pays pour X raisons, c'est en arrivant qu'ils déjà qu'ils se rendent compte que ce qui, les images qu'ils ont pu se faire ne sont pas tout à fait celles qu'elles avaient ou celles qu'elles trouvent sur place. Et elles apprennent à revivre, à se reconstruire. Et justement, en essayant de se construire un certain bonheur.
Vous abordez une grosse question philosophique, hein, quand même, le bonheur.
Oui.
C'est pas rien. Et du coup, je me demandais si plus bassement dans le film, il y avait un peu de critique politique, peut-être, sur les systèmes migratoires, ou ça, si c'était abordé, ou pas du tout.
Bon, nous avons surpris des conversations qui abordaient justement des sujets comme ça, mais qui sont très... Bon, on a quand même fait un peu, toiletté un peu les propos, mais ils s'expriment plus ou moins sur les organisations qui gèrent les demandeurs d'asile, notamment l'OFI et le CADA, la mairie de Perlevade, voilà.
Marjane a eu la traduction de la réponse, de la question, ou...
Non, c'est tout.
Donc le film se concentre surtout sur des aspects quotidiens de la vie.
Oui.
Évidemment, nous ne l'avons pas vu. Quelle atmosphère vous avez eu envie de donner ? Est-ce que c'est un film un peu contemplatif ? Est-ce qu'il y a des moments... J'ai envie de le voir. Qu'avez-vous donc mis dans ce film ?
Bon, c'est en fait une sorte d'invitation à se remettre en question, parce qu'il y a trop de préjugés en ce moment, sur l'étranger, sur l'inconnu... Et ce film, c'est en fait une invitation à tout le monde se questionner sur quel est le regard que je porte sur l'autre et qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre. Et je pense vraiment que toutes les personnes qui auront à voir ce film pourront se capter un certain message qui peut aller dans plusieurs sens, hein, parce qu'on n'a pas tous la même façon d'observer. Mais le point focal, en fait, c'est de remettre l'homme en face de lui-même, en face de l'autre, et de faire tomber les préjugés, quoi, en quelque sorte. Ouais.
Nous demandons à Marjane si elle veut rajouter des choses.
Elle a dit qu'il y a plusieurs des moments qui sont contentes, qui sont en train de rigoler, mais dans les moments que c'est compliqué, mais le film c'est plus heureux, ce qu'elle vient de dire, c'est plus heureux, c'est pas plus triste. Mais c'est une situation compliquée, mais les gens essayent d'être heureux dans une situation compliquée. Et à la fin, c'est d'avoir des rêves pour le futur de eux. Ils essayent de vivre là-bas dans cette situation. C'est juste d'avoir des rêves qui essayent de vivre là-bas.
Peut-être à commencer, je sais pas, moi je me suis imaginé vivre au CADA et j'ai imaginé que mon premier rêve, si j'étais au CADA, ce serait de sortir du CADA.
En effet, parce que en fait, le CADA, c'est un point de passage. Hein. C'est les demandeurs d'asile qui sont hébergés dans cette structure et qui sont en attente de des papiers, quoi. Donc c'est un point de passage et tout le monde, en fait, tous les résidents attendent le jour où ils auront le droit de partir. Soit, bon, l'idéal c'est de rentrer dans la société française, mais bon, ça ne marche pas toujours comme ça pour tout le monde. Moi, ça n'a pas fonctionné comme ça et voilà, je suis parti d'une autre manière et.
Et est-ce que là, actuellement, tu ne serais pas dans la société française, peut-être plus qu'au CADA ou...
Bien sûr, tout à fait, parce que ici, je suis au contact en fait quotidien de des Français et bien sûr d'autres personnes aussi qui viennent. Et c'est totalement différent de la vie que mènent les résidents du CADA, qui sont déjà vus comme résidents du CADA. Mais bon, en étant ici à Tarnac, on ne sait pas. C'est quand on parle, quoi, qu'on sait d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Voilà.
Et est-ce que. Comment dire, est-ce que vous avez vraiment relu la vie au enfin, est-ce que le fait de faire ce film vous a permis de lire ou de relire ce que c'est que l'organisation de la vie dans le CADA ou de donner du recul? Est-ce que arriver à la maison au volet rouge, ça éclaire encore d'une autre façon ce type de gestion de personnes en fait?
Bon, déjà, moi, quand je suis arrivé au CADA, j'ai trouvé qu'il y avait déjà un rapport assez tendu entre les résidents et la gestion du CADA. Et je suis naturellement rentré dans le mouvement parce que c'était les mêmes revendications qu'on avait.
C'était quoi les revendications ?
Bon, je ne sais pas si on va le dire ici, mais bon, lié aux conditions...
D'accueil.
Et on a essayé de faire une démarche que nous, on a estimé, c'était à l'initiative, c'était moi et Marjane, qu'on a estimé être simple et correct. On a fait juste un courrier au CADA et on a mis la mairie en copie, mais c'était pas bien reçu. Ils l'ont pris comme une sorte d'agression, hein, parce que c'était vraiment très tendu. Mais après, ils ont compris qu'il n'y avait rien on n'allait pas au-delà de juste de nos besoins. Voilà. Donc après, les choses se sont calmées. Et en arrivant au film, en fait, il s'est fait que en prenant le vécu, il ressort les mêmes revendications qu'on avait fait déjà moi à mon arrivée au CADA. Et ça se dit dans le film et c'est illustré vraiment très clairement et de façon très naturelle. Donc je pense que ce film traduit vraiment la réalité et nous après ça nous a rassurés de ne pas être les seuls à avoir fait cette démarche là. Le film va continuer à parler et on espère que ceux qui passeront par le CADA prochainement trouveront de meilleures conditions de vie et d'hébergement. Et pas seulement au CADA et même en France. Voilà.
On espère aussi.
Oui.
Et pour ça, il faut aller voir le film. Donc, pour ma part, je vais m'y rendre ce samedi à la salle des fêtes de Tarnac à 19h ou peut-être 19h30 pour découvrir Nos vies d'exil à Perlevade, l'avant-première, j'ai de la chance, réalisée par Cyril Mukendi et Marjane Jaffari avec Télé Mille Vaches et les résidents du CADA de Perlevade. Cyril aussi, nous pouvons voir ton exposition de peinture.
Oui.
Tu peux me rappeler son titre ?
C'est « La main de l'homme, faire la paix, pas la mort ».
C'est une exposition qui a déjà été montrée à Perlevade, je crois.
Qui a déjà été montrée à Perlevade, à la Maison des Associations, à Ussel, à la bibliothèque intercommunale, et à la fête de la montagne, à Saint-Martin-Château. Et ici, c'est la quatrième exposition à Tarnac.
Et nous espérons pouvoir la découvrir encore dans un autre village
oui.
Une prochaine fois. Pour finir cette émission, je vais vous donner une bonne nouvelle. L'association Montagne Accueil Solidarité de Perlevade et son groupe de Feltin projettent d'acheter une maison dans Feltin où pourront être accueillies des femmes isolées et des familles. Donc encore plus d'accueil du type de la maison au volet rouge qui permet peut-être de reprendre pied dans une vie plus ouverte qu'au CADA.
Et ça, c'est une initiative vraiment à saluer. Nous sommes ravis d'apprendre ça.
C'est fantastique.
Ouais.
Eh ben, merci beaucoup Marjane et Baran pour la traduction. Et Cyril, merci beaucoup à Kevin pour la technique. Nous vous laissons avec un morceau d'Abou Gabi et Oslob de la programmation. Ce serait le samedi 15 août à Ogoutayou. Eh bien, salut à toutes et à tous et à bientôt.
تخيل شو بدنا نعمل اي شيء يعني الشام اي شيء اي مكان بالشام احسن من هون
طب يلا بتهون يا اخوي تهون طب ليك تعال تعال نقعد لنا شوي نسمع لنا كم موال نعمل لنا شيء
غني غني غني
لك هذا
واقف شو
مين جنو يا بي جنو
منظم تحرير خبرتني اني رح تنحل وان صرت عم بمل عالقان بيأثروا بي ومعش فيها منفذ معيش وراق بعد بتخبط من نص ساعة ناطر ابراهيم مخي محتاج يتصبر مش رح ارجع للحبوب جلسات الفراغ وتجميع الا بالاكس اكس قالوا كل محل الاستفراغ نعم مضيها هربان من الحواجز مع كل طلعة الطري فيها قلب نائز والعرس المخبر فضيلي ابراهيم هذيك المرة تفضل شو بحكي لي كنت ناوي استاجر الخرفة فبدو صورة هوية حتى انت يا زلمة ما انت عارف كل ده قصة عادي كان محتاج يهججني كان عنده زبون يدفع اكثر مني كتار السوريين المحتشين والاستخدام ضارب كمان عادي كنت طالع من البيت لانه زهقت من الاسطوانة المعتادة شوف لك شي شغلة تعملها يا الله ولك ما نعرفت من حالي دور هون روح هنيك اشتغل بأي شي طير كتف روح حجر لحد ما الروح تطلع بس اهم شي ضلك متسع ولا حدا من جناب الطري يسمع